Chapitre 2. Le bien véritable et suprême. Seulement, je voyais que mon esprit, en se tournant vers ses pensées, se détournait des passions et méditait sérieusement à une règle nouvelle. Et ce fut pour moi une grande consolation, car je compris ainsi que ces maux n'étaient pas de ceux qu'aucun remède ne peut guérir. Et, bien que, dans le commencement, ces moments fussent rares et de courte durée, cependant, à mesure que la nature du vrai bien me fut mieux connue, ils devinrent et plus longs et plus fréquents, surtout lorsque je vis que la richesse, la volupté, la gloire, ne sont funestes qu'autant qu'on les recherche pour elles-mêmes et non comme de simples moyens. Au lieu que si on les recherche comme de simples moyens, elles sont capables de mesure et ne causent plus aucun dommage. Loin de là, elles sont d'un grand secours pour atteindre le but que l'on se propose, ainsi que nous le montrerons ailleurs. Ici, je veux seulement dire en peu de mots ce que j'entends par le vrai bien et quel est le souverain bien. Or, pour s'en former une juste idée, il faut remarquer que le bien et le mal ne se disent que d'une façon relative, en sorte qu'un seul et même objet peut être appelé bon ou mauvais, selon qu'on le considère sous tel ou tel rapport. Et de même pour la perfection et l'imperfection. Nulle chose, considérée en elle-même, ne peut être dite parfaite ou imparfaite, et c'est ce que nous comprendrons surtout quand nous saurons que tout ce qui arrive, arrive selon l'ordre éternel et les lois fixes de la nature. Mais l'humaine faiblesse ne saurait atteindre par la pensée à cet ordre éternel. L'homme conçoit une nature humaine de beaucoup supérieure à la sienne, où rien, à ce qu'il lui semble, ne l'empêche de s'élever. Il recherche tous les moyens qui peuvent le conduire à cette perfection nouvelle. Tout ce qui lui semble un moyen d'y parvenir, il l'appelle le vrai bien. Et ce qui serait le souverain bien, ce serait d'entrer en possession, avec d'autres êtres, s'il était possible, de cette nature supérieure. Or, quelle est cette nature? Nous montrerons, quand il en sera temps, que ce qui la constitue, c'est la connaissance de l'union de l'âme humaine avec la nature tout entière. Voilà donc la fin à laquelle je dois tendre, acquérir cette nature humaine supérieure et faire tous mes efforts pour que beaucoup d'autres l'acquièrent avec moi. En d'autres termes, il importe à mon bonheur que beaucoup d'autres s'élèvent aux mêmes pensées que moi, afin que leur entendement et leur désir soient en accord avec les miens. Pour cela, il suffit de deux choses. D'abord, de comprendre la nature universelle autant qu'il est nécessaire pour acquérir cette nature humaine supérieure. Ensuite, d'établir une société telle que le plus grand nombre puisse parvenir facilement et sûrement à ce degré de perfection. On devra veiller avec soin aux doctrines morales ainsi qu'à l'éducation des enfants. Et comme la médecine n'est pas un moyen de peu d'importance pour atteindre la fin que nous proposons, il faudra mettre l'ordre et l'harmonie dans toutes les parties de la médecine. Et comme l'art rend facile bien des choses difficiles et nous profite en épargnant notre temps et notre peine, on se gardera de négliger la mécanique. Mais avant tout, il faut chercher le moyen de guérir l'entendement, de le corriger autant qu'il est possible dès le principe, afin que, prémuni contre l'erreur, il est de toute chose une parfaite intelligence. On peut déjà voir par là que je veux ramener toutes les sciences à une seule fin, qui est de nous conduire à cette souveraine perfection de la nature humaine dont nous avons parlé. En sorte que tout ce qui, dans les sciences, n'est pas capable de nous faire avancer vers notre fin, doit être rejeté comme inutile. C'est-à-dire, d'un seul mot, que toutes nos actions, toutes nos pensées doivent être dirigées vers cette fin.